7h18 sur Europe 1. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin le président du groupe socialiste et républicain au Sénat, Patrick Kanner.
Bonjour Patrick Kanner.
Bonjour Monsieur de Villeneuve.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Groupe socialiste et républicain, ça prête pas un peu confusion avec les Républicains?
Écoutez, je pense que les Républicains n'ont pas le monopole de la République, donc c'est très bien que nous nous appelions comme ça. C'était le choix de mes prédécesseurs. Ce n'était pas pour embêter la partie majoritaire du Sénat, simplement pour dire que la République est partagée par beaucoup, et heureusement.
Mais socialiste, ça suffisait pas?
On aurait pu dire et apparenté ou rattaché, mais républicain, ça montre aussi notre attachement à ce qui fait finalement le fond commun de notre engagement politique aux uns et aux autres.
Quoi qu'il en soit, vous existez, vous le faites savoir, et on vous a vu la semaine dernière réunir ce qu'on appelle les éléphants du PS, les Hollande, Jospin, Aubry, etc. Dans quel but?
Alors tout d'abord, le mot éléphant n'est pas pour moi un mot désagréable.
Non, mais c'est pour ça que je le dis. Je ne me le permettrai pas, Patrick Kanner.
Merci beaucoup. Et en plus, il y a beaucoup d'éléphantos qui voudraient bien devenir des éléphants. Oui. Et donc, il est clair que cet animal, entre guillemets, ce roi de la jungle, finalement, et la politique, c'est parfois une jungle, a besoin de force. Donc, nous avons réuni une manière un peu extraordinaire, disons-le, informel autour d'un pot. Ce n'était pas un congrès de refondation du Parti Socialiste. C'était pas le nouvel élan. Mais néanmoins, c'était le message que nous voulions passer à nos concitoyens et aussi à nos militants.
Ça veut dire quoi? On existe
famille,
encore?
La famille pouvait être bien rassemblée. Ce n'est pas on existe encore, c'est on existe.
Oui.
On existe. La France a besoin d'une gauche, de gouvernement.
Vraiment?
Bien sûr. Vous voulez-vous qu'il y ait qu'un simple extrême centre et une simple extrême droite?
Je sais pas. Moi, je veux rien du tout. Je vous demande.
Donc, nous, notre problème, c'est bien sûr de montrer qu'il y a une place pour la gauche. Et je crois qu'il y a un appétit pour la gauche. On l'a bien vu avec le 1,5 million d'électeurs qui ont quitté Emmanuel Macron aux élections européennes et qui sont aujourd'hui assez orphelins, disons-le très clairement. Donc, nous devons nous reconstruire. Mais ça passe par une démarche structurée, une pensée, une stratégie et une incarnation. Et c'est pas l'un sans l'autre, c'est les trois en même temps, pour prendre une expression aujourd'hui consacrée.
Consacrée et galvaudée, certains diront, certains observateurs. Le clivage droite-gauche, vous surfez sur cette vague. D'ailleurs, une étude d'opinion assez récente a montré que les Français étaient rattachés à cela, le centre droit ou le centre gauche tout puissant, vous n'y croyez pas?
Non, je crois au clivage droite-gauche. Je pense que c'est un élément majeur pour la respiration dans nos institutions, dans la République. Nous n'avons pas la culture américaine d'un grand parti démocrate, que souhaite d'ailleurs M. Macron, et du Parti Républicain. Nous avons une histoire qui date de la Révolution, qui est basée sur ce clivage entre la droite et la gauche, qui fait évoluer les choses, qui fait avancer la société, et c'est très bien comme cela. Et donc, je ne me résous pas à voir les Républicains, le Parti des Républicains réduit à 8 ou 9%, je ne me résous pas à voir mon Parti Socialiste réduit à 6%. C'est une anomalie de l'histoire, et il faut y mettre fin. Et pour cela, eh bien, c'est dans nos mains que la solution existe, et pas dans la main des autres. Monsieur Macron souhaite nous éliminer. D'ailleurs, une note récente d'un certain collaborateur de Monsieur Ferrand le montre.
Directeur de cabinet de Richard Ferrand.
Il faut chasser les socialistes, y compris avec d'ailleurs des collaborateurs de cabinet, voire même des ministres même. Monsieur Le Drian qui passe des coups de fil lui-même à des maires socialistes pour dire, mais venez avec
l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry, qui a été chassée dernièrement d'ailleurs.
Oui, chassée dans le langage des
entreprises.
Oui, qui a trahi son ancienne patronne, manifestement.
Vous parlez de trahison.
Ah, bien sûr. Enfin, moi, je considère que quand on a été la principale collaboratrice d'un maire, quel qu'il soit, et quand on est replacé dans une grande société publique,
Patrick
quelle
Kanner,
qu'elle soit.
Vous parlez de trahison, on a l'impression vraiment avec vous d'être dans la politique politicienne. Là, on parle, on suit un mouvement. Je ne suis absolument pas là pour défendre La République
j'ai
en Marche.
J'ai bien compris, heureusement.
Mais heureusement, puisque c'est pas du tout mon rôle. Ouais. Mais on a l'impression que ce clivage droite-gauche auquel vous tenez vraiment, c'est pour construire des carrières politiques.
Écoutez, nous avons des idées à défendre, je l'ai dit tout à l'heure. Nous considérons que les échéances qui arrivent sont des échéances qui vont nous permettre de rebondir politiquement, de montrer aux Français que ce clivage droite-gauche existe et que la gauche, aujourd'hui, a encore des choses à dire sur la lutte contre les inégalités sociales, sur la sociale écologie, sur de nouvelles libertés, sur de nouveaux droits pour les Français. Encore une fois, je reprends l'expression, je ne me résous pas à considérer que le Macron glouton...
Oui.
Soit la seule solution pour notre pays. Cette pyramide.
Mais tout est mauvais dans La République en Marche?
Absolument pas.
Parce que François Hollande a passé sa vie d'après quinquennat à critiquer l'action d'Emmanuel Macron.
Nous ne sommes pas dans
les grandes fortunes et Macron, réformer pour réformer, le président des très riches, décision injuste et comportement excessif.
Le Parti Socialiste n'est pas un parti d'opposition systématique.
Bah, là, en l'occurrence, par François Hollande, oui.
Écoutez, nous serons capables, par exemple, de soutenir la future PMA.
Vous lui avez dit à François Hollande qu'il faut arrêter, justement, c'est...
Vous savez, François Hollande, je le rencontre régulièrement et nous discutons très régulièrement aussi. Il est dans l'opposition, mais pas une opposition. Position bête et méchante.
Non, mais systématique, puisqu'on l'entend souvent.
Absolument pas. Si vous prenez le bilan de la session qui vient de s'écouler, de la session ordinaire et extraordinaire, nous avons adopté, nous avons porté des textes. Et heureusement, donc nous savons faire la part des choses. Nous disons simplement qu'aujourd'hui, le sillon qui est pris par M. Macron et son gouvernement et sa majorité est un sillon de droite libérale, mais qu'ils ne veulent pas d'ailleurs assumer. Ils considèrent que le ni droite ni gauche, c'est l'alpha et l'oméga de la vie politique française. Non, c'est une droite libérale. Nous pensions pour certains avoir élu un nouveau Mendès France, c'est un nouveau Giscard, il y a un Giscard peut-être empire, mais il faut l'assumer. Et c'est pour ça que nous disons à M. Macron et aux siens, mais comptez-vous partout, aux élections municipales en particulier. Arrêtez de vouloir siphonner, de vouloir braconner, mais notamment la gauche. Il y a de la place pour la biodiversité, mais quand, y compris en politique.
Alors vous parlez de biodiversité, vous me tendez une perche pour vous parler de Didier Guillaume, qui pourtant a fait partie de votre famille politique, qui, quand je l'interrogeais ici même en début de semaine à votre place, voyait votre peau, votre organisation, comme quelque chose de sympathique, mais rien au-delà. Est-ce que vous critiquez cette position de Didier Guillaume, qui pourtant faisait partie des vôtres ?
Mais Monsieur Guillaume a fait un choix personnel, d'une ambition personnelle tout à fait respectable, qui n'est pas la nôtre. Il a préféré quitter ses idées pour rejoindre un poste ministériel.
Mais il incarne la gauche au sein du gouvernement.
Il incarne ceux qui ont considéré que pour un avantage personnel, M. Dussopt, par exemple, M. Guillaume, M. Le Drian, eh bien, il fallait quitter la famille politique dans laquelle ils ont été élus. Je tiens à préciser...
Vous avez le même jugement pour ceux qui étaient à droite, qui étaient aux Républicains, qui sont partis au gouvernement
Macron ? Exactement.
Vous avez le même jugement pour Bruno Le Maire, pour Gérald Darmanin.
Bien sûr, ce sont des personnes qui avaient un passé politique, qui ont été élues sur une étiquette politique et qui ont mis de côté cette étiquette.
C'est une faute politique pour vous de...
C'est quelque chose qui regarde leur conscience, sûrement. Et j'espère que quand ils se regardent dans la glace tous les matins, ils se disent, mais finalement, est-ce que je suis encore moi-même ? Moi, M. Guillaume, je l'ai connu quand il était dans les fameux dîners de la Mitterrand, de la Hollandie, pardon, à l'hôtel de Brienne.
Vous avez raison, puisqu'il a travaillé avec François Mitterrand.
Oui, il a été surtout quelqu'un qui était un des moteurs du quinquennat précédent. Après, les ambitions se respectent. Moi, très honnêtement, je préfère être fidèle à mes valeurs et rester dans cette opposition constructive que nous essayons aujourd'hui de construire.
Opposition constructive avec une incarnation, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, pourquoi lui ?
Bernard Cazeneuve fait partie des hommes et les femmes politiques, mais en l'occurrence un homme politique les plus respectés de France.
Dans quel sens ?
Tout d'abord parce qu'il a été un très grand ministre de l'Intérieur dans les moments les plus difficiles que la France ait connus depuis les événements d'Algérie, pour être très clair. Deuxièmement, parce que c'est quelqu'un qui a une pensée politique et une loyauté vis-à-vis de ses valeurs qui méritent là aussi le respect. Et donc, il est sûrement, non pas la solution, je ne crois pas à l'homme providentiel, mais il fait partie de ses solutions dans cette construction politique et reconstruction politique que j'évoquais. Et donc, je souhaite que très rapidement, il puisse prendre la parole et puis nous dire si, oui ou non, il souhaite s'engager pour le pays. J'ai le sentiment que fondamentalement, c'est quelqu'un qui ne pourra pas, ne voudra pas fuir ses responsabilités. Et à mon avis, elles sont très grandes aujourd'hui.
On a effectivement réuni, vous avez réuni Lionel Jospin, François Hollande, Martine Aubry. Est-ce qu'il y a un consensus autour de Bernard Cazeneuve ?
Manifestement.
Ça vous surprend ?
Ça ne me surprend pas au regard des qualités que je viens d'évoquer de Bernard Cazeneuve.
Mais il y a plusieurs mouvances dans la gauche. Donc
oui, mais vous savez, moi je préside un groupe de 72 sénateurs qui ont toutes sortes de sensibilités, de la droite à la gauche du PS, comme on disait historiquement. Je puis vous dire que ce nom fait consensus. Mmh. Et c'est donc une chance pour le PS, mais c'est surtout une chance pour la gauche, et donc une chance, je l'espère, pour la République française.
Un nom et des dossiers prioritaires. On parlait d'opposition systématique, mais effectivement, sur les dossiers récents, l'affaire Rugy et les autres, on vous voit réagir les uns et les autres au PS, notamment Olivier Faure, puisque c'est lui qui porte le drapeau aujourd'hui. Cet été, les socialistes vont s'atteler à un projet, le référendum contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Mais sur les dossiers de fond, ceux que vous voulez défendre pour 2022. Quel est le dossier qui est tout en haut de la pile?
Tout d'abord, 2022, c'est très très loin.
Et pas tellement. Hein.
Et à 6%, je vais vous dire, nous n'avons même pas de quoi faire un candidat, très concrètement. Donc, vous savez, en politique, il faut savoir avaler les plats les uns après les autres. Si les municipales ne se passent pas
bien... Donc, il n'y en aura pas?
Je vous dis qu'aujourd'hui, si l'élection avait lieu aujourd'hui, nous n'aurions même pas de quoi
pas
faire
de
un candidat.
Zéro.
Je vous dis très simplement, exactement. Donc nous avons très peu de temps pour reconstruire cela. Et sur le thème de la lutte contre les inégalités, encore une fois, sur les nouvelles libertés, sur les projets de décentralisation, donc d'aménagement du territoire, cette gauche a de quoi faire. Nous allons sortir, nous, en tant que groupe socialiste, un livre blanc, 20 propositions pour 2020.
Quand ça ?
Au mois de novembre, début décembre, au plus tard. Ce sera une des pierres à l'édifice. Et je pense que nous demandons aux militants, aux élus, aux sympathisants de se remobiliser pour dire mais construisez cette réponse alternative à l'extrême centre que porte M. Macron.
Vous y croyez vraiment ?
Ah, j'y crois vraiment et je pense que ma tonalité vous le démontre.
Merci beaucoup Patrick Kanner d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin.